Luc chapitre 11, 16. Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Au nom de Jésus. Il y avait une fois un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins, les plus coûteux, et qui chaque jour vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Un pauvre homme appelé Lazare, couvert de plaies, se tenait couché devant la porte de la maison du riche. Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. De plus, les chiens venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Le riche souffrait beaucoup dans le monde des morts. Il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et rafraîchisse ma langue, car je souffre beaucoup dans ce feu. Mais Abraham dit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de biens pendant ta vie, tandis que Lazare a eu beaucoup de malheurs. Maintenant, il reçoit ici sa consolation, tandis que toi tu souffres. De plus, il y a un profond abîme entre nous et vous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et l'on ne peut pas non plus parvenir vers nous de là où tu es. Le riche dit: Je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, où j'ai 5 frères, qu'il aille les avertir afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham répondit: Tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir qu'ils les écoutent. Le riche dit: Cela ne suffit pas, Père Abraham. Mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de comportement. Mais Abraham lui dit: S'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader comme si l'un des morts revenait. Amen. Avec ce genre de texte, je ne peux pas m'empêcher de repenser à ce que disait un de mes profs qui s'appelait Patrice Rollin. Il avait dit: Il est plus difficile de prêcher sur un texte trop connu. Les textes classiques, comme on dit par exemple le bon samaritain, le fils prodigue, ici Lazare, tout le monde connaît. Comme on dit, tel que ce texte que nous avons aujourd'hui. Ce sont des textes trop connus du grand public. Et surtout des prédicateurs, qu'on ne prend même plus la peine de voir des détails qui sont pourtant croustillants. Et justement, nous allons faire un exercice ensemble. L'exercice que je vous propose, c'est comme si imaginez, nous étions en visite dans un musée. Dans la première lecture que vous avez suivie, vous avez regardé de loin un tableau, l'histoire de Lazare, Abraham et le riche, de loin. Mais on va refaire la lecture. Et là, vous allez vous rapprocher du tableau, regarder les détails que le peintre a mis dans ce tableau, et vous allez voir qu'il y aura des choses qui ne sont même pas dans vos réflexions quand vous lisez ce texte habituellement. Et je demanderai à quelqu'un dans l'assemblée, si quelqu'un le veut, relire le texte là où il est. Et on va demander à Nathan de reprojeter le texte. Si quelqu'un peut relire lentement. Et on va revoir ces détails. Quelqu'un peut le faire?
Il y avait une fois un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins et les plus coûteux, et qui, chaque jour, vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Devant la porte de sa maison était couché un pauvre homme appelé Lazare. Son corps était couvert de Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table de riche. De plus, les chiens venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Il souffrait beaucoup dans le monde des morts. Il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare De plus, il y a un profond abîme entre vous et nous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et l'on ne peut pas non plus parvenir jusqu'à nous de là où tu es. Le riche dit, je t'en prie, Père, envoie donc Lazare dans la maison de mon père, où j'ai 5 frères, qu'il aille les avertir, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham répondit, tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir, qu'ils les écoutent. Le riche dit, cela ne suffit pas, père Abraham, mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de comportement. Mais Abraham lui dit, s'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts.
Merci. Regardez bien au verset 19. Je vais faire une lecture un peu diagonale. Un homme riche. Et regardez, contrairement à l'autre personnage, où on ne le considère même pas, on ne dit même pas comme un individu, tout simplement on le décrit un pauvre. Verset 20. Ensuite, il dit, il s'habillait des vêtements les plus fins, les plus coûteux, et qui chaque jour vivait dans le grand luxe, en faisant du bon repas. Ça veut dire sans aucune modération. Vit dans l'excès de table. Et de l'autre côté, il y a un monsieur qui ne mange pas, qui est couvert de plaies, contrairement à l'autre qui est vêtu de vêtements les plus fins. L'autre est couvert de plaies. Pour lui, donc, ses vêtements, ce sont ses plaies. Contrairement aux riches, vêtus de vêtements luxueux. Lazare voulait se nourrir des morceaux qui tombaient de la table. Or, de l'autre côté, eux, ils mangeaient tout ce qu'ils voulaient. Les chiens venaient les lécher. Et là, c'est très fort, pour encore mettre l'accent sur l'absence d'empathie du riche, contrairement aux chiens qui léchaient Lazare. Sous-entendant que le chien semblait avoir plus d'humanité que l'homme riche. Voilà. On va d'abord s'arrêter sur cette partie-là pour vous mettre en exergue un tableau qui fait peur. Un tableau saisissant. Si ce genre de texte sera lu, je le suis dit, par un militant des mouvements des Gilets jaunes, forcément ils vont tout de suite sauter sur l'occasion et crier « scandale !» Parce qu'ils vont montrer la fossée qui existe entre les riches et les pauvres. Mais il faut souligner que ce n'est qu'une parabole, hein, ce n'est pas une vraie histoire. Calmez-vous. C'est une histoire fictive qui n'existe pas, mais qui a été inventée par Jésus. Mais on voit l'art de Jésus pour susciter l'attention de son auditeur. Mais dans quel but il donne ce genre de scénario? Eh bien, c'est un peu comme un romancier. Je trouve Jésus comme un romancier qui écrit une histoire bouleversante dans le but justement de lancer la sonnette d'alarme des situations réelles qui existent dans la société. C'est le but des romanciers quand ils écrivent des livres. Et dans le monde où nous vivons, nous assistons tous à des formes d'injustice sociale inacceptables, comme ici. Et cette fossée qui se creuse de façon exorbitante entre les pauvres et les riches, c'est ce que Jésus a mis en valeur. On dit même que la classe moyenne, paraît-il, disparaîtra si tout cela continue. L'évangile de Luc est assez moderne pour son époque, car il nous parle aujourd'hui en 2019. Pour le monde, c'est vrai, comme ce texte le dit, tu n'es pas quelqu'un si tu n'as pas ceci et cela. Tu n'existes pas si tu n'as pas tous les paramètres que la société a mis comme normes. Oui, la société, elle est cruelle. Tu n'es pas reconnu en tant que tel, comme les jeunes tout à l'heure vont dire, authenticité. Les gens ne vont pas reconnaître qui tu es. Si tu n'as pas de statut social, tu ne rentres pas dans les cases de la société. Si tu n'as pas de référence, regardez quand vous faites vos demandes d'emploi, quel est votre référent? Il faut quelqu'un de crédible pour dire oui, celui-là, il est compétent. Parfois, le demandeur d'emploi est plus compétent que le référent, mais bon. Vous voyez, c'est la société où on vit. On a malheureusement l'habitude d'entendre dans la vie de tous les jours, ça c'est quelqu'un. Va voir pourquoi on le dirait. Est-ce à cause de sa lignée, fils de, du nom qu'il porte, de son statut social, etc. On a les jeunes aujourd'hui au JEC, nous avons parlé vendredi, l'autre vendredi passé, d'un personnage biblique, Daniel, et ses trois amis. Et dans nos échanges, nous avons pu dégager la formule suivante, que les jeunes ont bien compris. Pour toi, jeune, qu'est-ce qui est le plus important ? Réussir sa vie ou réussir dans la vie ? Réussir sa vie ou réussir dans la vie ? Là, Jésus dresse un tableau que la vie sur terre est régie ainsi, malheureusement, chers frères et sœurs. Mais, ce qui est formidable dans le récit, le ton change brusquement lorsque les choses basculent dans l'au-delà ou dans le royaume de Dieu. Regardez bien le texte, la dynamique du récit marque un bouleversement capital, car il est dit que lorsque le riche, et là on revient à notre tableau, on va s'approcher encore, lorsque le riche mourut, on l'enterra. Regardez bien l'image, on le mit à terre. Et tandis que lorsque Lazare meurt, il est dit que les anges portèrent auprès d'Abraham. Vous voyez, le riche en l'enterra et Lazare en l'emmena vers Abraham. Et regardez bien le positionnement de Lazare vis-à-vis du riche. Contrairement à ce qui s'est passé, cette fois-ci le pauvre est placé à un niveau surélevé, tandis que le riche, je mets entre guillemets, est en position inférieure. Voilà le paradigme. Alors, tout de suite une question nous vient à l'idée. Une question qui nous dit tout de suite à l'esprit, est-ce que le Dieu que Luc proclame ici, est-ce que serait que le Dieu des pauvres et non des riches ? Ce serait la tentation de notre lecture. Est-ce que ce Dieu est le Dieu des pauvres et non le Dieu des riches ? Et là, c'est une bonne question. Moi, je n'ai pas de réponse. Je préfère me taire quand la Bible reste muette sur le sujet. Toutefois, ce qui est interpellant dans le texte, c'est que depuis le début, on voit clairement que ce pauvre Lazare, si vous suivez la lecture, ce pauvre Lazare ne parle pas. Vous n'avez jamais entendu Lazare parler, hein ? Il ne parle pas, contrairement aux riches, il ne fait que parler. Et même, intéressant, et même dans l'au-delà, il pensait encore avoir une certaine influence sur des choses ou sur les gens. Regardez bien, sans scrupule, ce riche, il donne encore des ordres à Lazare d'aller s'occuper de sa famille. Va, Lazare, vers ma famille. Vous voyez un peu la mentalité ? Il croit encore qu'il est dans le monde où son argent peut tout acheter. Et pour moi, c'est là le message, je crois, qui est important dans cette parabole. Elle ne répond pas à la question « Est-ce qu'il y a un Dieu des riches ou des pauvres ?» Non, ce n'est pas cela. C'est plutôt nous dire que dans le royaume de Dieu, l'argent n'a pas le monopole du pouvoir. Heureusement, l'argent a ses limites. Ça, c'est la bonne nouvelle. Or, on dit, on peut tout acheter. L'argent a ses limites et que l'homme n'est pas à vendre. J'ai bien aimé l'allocution du pape François qui dit, on vit dans une société où l'être humain est devenu un déchet, puisqu'on peut l'acheter. Et dans cette parabole, le pauvre semblerait ne pas avoir la parole. La discussion se faisait entre Abraham et le riche. Lazare ne fait que regarder, comme s'il regardait un match de tennis, un ping-pong. Et là, on peut aussi dire que la cause de Lazare est en de bonnes mains. Il n'a pas besoin de dire des choses. C'est Dieu qui est son avocat, son paraclète. Il n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche. Il n'a pas besoin de crier scandale. Sa cause n'est pas du tout perdue ni oubliée. Et là, l'évangéliste met le projecteur sur Jésus. pour montrer qu'il est l'avocat des personnes qu'on pourrait classer d'insolvables, des pauvres, des sans-voix. Et tout de suite, cela me fait penser au magnifique verset lors de la libération d'Israël sous le joug de l'esclavage dans Exode chapitre 14, verset 14. Le Seigneur combattra pour vous et vous, vous garderez le silence. Ce n'est pas du tout une sorte de résignation, le silence, ou de fatalisme, mais c'est parce que nous n'avons pas les moyens de le faire. Dieu est réaliste. Réclamer notre cause, on n'a pas les moyens de le faire, puisque nous vivons dans un monde de brutes. Et Jésus en est conscient. Seule la loi du plus fort qui règne. Par conséquent, il donne ici un personnage comme Abraham qui doit prendre notre cause à notre place, à l'image de Jésus, bien sûr. Quelqu'un qui a de la carrure pour contrebalancer cette forme d'injustice. Quelle joie de savoir que nous avons une personne qui est au-dessus de tout, de toute chose, et qui prend en main notre cause. Notre défenseur dit Jean dans son épître, « Celui qui va plaider pour moi, où ça ? À la droite du Père. » Vous savez que tout ce qu'il demande au Père, le Père dit toujours « oui, oui, oui ». Il ne refuse jamais son Fils. Et j'accepte avec joie ce statut que j'ai, pauvre sur tous les plans, et je mets entre parenthèses, parce que c'est le Seigneur lui-même qui s'engage à me consoler. Rappelez-vous les paroles de la béatitude qui font écho en nous et prend tout son sens, et je termine là-dessus. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Amen.